Soge kanya siri bolola kayala.
Muso kafo, kau wale nyuma don. Muso kafo, kau bonya dunya so.
Muso tafe ya kime wale nyuma don. Muso kafo, ni fama bonya dunya so.
Bonjour à toutes et à tous, à chacun et à chacune. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Buisson, écrivain, photographe, voyageur et amoureux inconditionnel du Japon. Une passion qu'il nous partage tous les mois sur Radio Grand Ciel dans son émission Instant Japon. Aux côtés de Dominique Buisson, Claire Crézet, présidente de l'association des Amis des Jumelages de Chartres. Ensemble, nous allons vous parler des 27 ans du jumelage au Chartres-Sakurai, si je ne m'abuse. Un anniversaire qui sera fêté tout au long de l'année de mille et une façons. Concerts, films, expos, démonstrations d'arts martiaux peut-être, dégustations de thé sans doute, qui contribueront, ben, gageons-le, à parfaire votre connaissance de la culture japonaise, une culture dont nous allons parler au cours de cette émission. Mais avant cela, un peu de géographie. Où se situe Sakurai au Japon ?
Alors Sakurai se situe dans la préfecture de Nara, qui elle-même se situe au sud de Kyoto, dans la péninsule de Kii. Donc c'est en plein Japon central, dans une zone de plaine entourée de montagnes. C'est tout à fait charmant, les paysages ressemblent à des jardins.
Oui, j'ai vu quelques photos, ça a l'air splendide, effectivement. Pourquoi Chartres et Sakurai se sont-elles fiancées, au fait ?
Alors, Chartres et Sakurai se sont rapprochés. Je pense que ça a été à la fois une volonté de la ville de Chartres et puis de la présidente à l'époque des jumelages qui a souhaité élargir les villes, le cercle des villes qui était plutôt européen à l'époque et qui avait une passion aussi pour le Japon. Ouais. Et donc, voilà, elle a fait, je pense, la proposition à la ville qui a été d'accord et ça s'est fait comme ça. Voilà.
Ouais. Et à 27 ans de jumelage, bon, il a dû se passer pas mal de choses. Quels ont été les événements marquants en 27 ans, dont vous vous souvenez, évidemment ?
Alors, il y a eu des voyages, il y a longtemps. Malheureusement, voilà, il y a depuis les deux dernières fois où on a souhaité organiser des voyages, ben, ça n'a pas pu se faire, faute de participants, bon, il faut bien dire, à cause du coût du voyage.
Le Japon, c'est pas la porte d'à côté.
Le Japon, c'est pas la porte d'à côté. Donc, on a fait, moi, l'événement le plus marquant auquel j'ai participé depuis que je suis au jumelage, c'est le 20e anniversaire. On avait fait un week-end à la collégiale Saint-André pour fêter Sakurai, puisque justement, c'est tellement difficile d'organiser des voyages là-bas. On essaie de célébrer le Sakurai à Chartres par différentes manifestations, donc ce que l'on fait cette année. Et puis, il y a eu toujours, tout au long de l'histoire, souvent des concerts, soit bon, de musique plus classique ou de musique japonaise. Il y a eu notamment un concert de Gagaku qui reste dans les mémoires des gens qui y ont assisté.
Qu'est-ce que c'est que le Gagaku ?
Alors, le gagaku, c'est une ancienne musique de cour du 8e siècle qui est née en Chine, qui a disparu complètement en Chine et qui est restée dans les traditions de la maison impériale japonaise.
Et c'est du tambour, hein.
C'est des
percussions.
Il y a deux choses, il y a le bugaku et le gagaku. L'un étant la danse, qui représente ces quatre danseurs qui représentent deux par deux Chine et Corée qui se battent entre eux, quoi, en fait. Et une musique de cour très spécifique avec des orgues à bouche, des flûtes, des gongs. C'est très particulier quand même.
Ouais. On écoutera de la musique japonaise tout à l'heure, mais on va continuer de parler de Sakurai, qui est une ville très importante pour les Japonais, sinon par sa taille, du moins par son histoire, car elle fut capitale impériale il y a de ça très longtemps, Dominique Buisson.
Oui, il y a très très longtemps, elle a été capitale impériale en tout, enfin en deux fois, pendant 199 ans en gros. Capitale, ça veut dire que l'empereur résidant dans un petit palais décidait que ce palais était sa capitale. Hein.
Oui.
Au moindre dysfonctionnement d'oracle ou de maladie ou de problème quelconque, l'empereur changeait de capitale, faut dire. Mais enfin, ça restait quand même toujours autour du village de Asuka, qui est souvent associé à Nara, parce que justement, par ce lien de capitale. Et Asuka, c'est un des villages qui constitue la municipalité moderne de Sakurai aujourd'hui.
Oui, c'est pas une ville très très grande, je crois que c'est 60 000 habitants à peu près, hein.
Oui, semble-t-il. Oui, 60 000 habitants.
60 000 habitants. Mmh. Alors, Sakurai enferme un des sanctuaires les plus sacrés du Japon. Il s'agit du sanctuaire Shinto Omiwa. Je crois que c'est le plus ancien de tout le Japon. Si j'ose dire, c'est presque l'équivalent de la cathédrale pour nous, ça.
C'est pour ça qu'il y a eu ce pacte d'amitié entre les deux villes, c'est qu'il y a un passé prestigieux et religieux à la base. Effectivement, c'est la forme la plus ancienne de shintoïsme qu'on pratique ici. C'est la montagne elle-même qui est le corps du dieu, cette montagne Omiwa, un dieu particulier puisqu'il séduit les jeunes filles la nuit en tant que beau jeune homme. Et en fait, quand on suit sa trace, on le retrouve en forme de serpent dans la montagne.
C'est très pratique.
C'est un petit peu compliqué.
C'est très pratique.
C'est très pratique. Voilà.
Parlez-nous peut-être du shintoïsme qui est vraiment au fondement même de la civilisation japonaise. Hein. C'est très important le shintoïsme, presque plus que le bouddhisme. En tout cas, c'est plus ancien encore.
Alors, le shintoïsme, c'est la religion première du Japon. C'est celle qui justifie même le Japon lui-même, puisque les dieux japonais ont créé le monde, et ce monde, c'est le Japon. Le bouddhisme, c'est une religion importée, mais qui importe à un moment où le Japon est encore à une situation très très archaïque. Le bouddhisme apporte l'écriture, la statuaire, l'art de gouverner, enfin toute la grande culture chinoise. Donc comment résister à cette chose-là? Donc évidemment, les deux religions vont être toutes les deux de fait religions d'État. Il y aura d'ailleurs souvent des rituels qui se passeront, qui s'échangeront de temple à sanctuaire, comme ça, pendant une grande partie de l'histoire du Japon.
Ouais. On peut dire un culte des divinités de la nature, non? Comment on pourrait dire ça?
Alors, je dirais pas tout à fait ça. Je dirais que c'est le culte de la japonité. Cette japonité, c'est quoi? C'est la terre japonaise et ses manifestations. Alors, ces manifestations, on leur attribue un rôle divin. En fait, quand on dit que la religion shintoïste adore la nature, que les Japonais adorent la nature, non. La nature n'est que le support de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Puisque tous les dieux sont invisibles, on ne les voit pas, on ne les voit donc que à travers la nature. Et c'est la nature elle-même qui est divinisée dans ce sens-là. Mais pas vraiment ses manifestations.
Ouais, d'où le respect pour les sources, les arbres, les...
Les Japonais disent qu'il y a consanguinité entre les hommes, les plantes, les arbres et les rochers. Donc ils font partie, eux, de ce tout. C'est pour ça que c'est difficile de... Nous, quand on vénère la nature, on est à côté, en face. Et on essaye de dialoguer avec elle. Mais il y a toujours quand même suprématie de l'homme sur la nature. Au Japon, c'est le contraire.
Alors, est-ce qu'on pèlerine toujours, donc, du coup, au sanctuaire Shinto de Sakurai? Il y a toujours des pèlerinages organisés régulièrement?
Il y a des fêtes, il y a beaucoup toujours, de manifestations. Oui, ouais. Toujours. C'est extrêmement important. C'est l'un des tout premiers du Japon. Peut-être même le premier grand sanctuaire organisé, on va dire. Donc oui, effectivement, il est de la première importance. D'ailleurs, il est patronné par la maison impériale qui a posé son sceau sur toutes les tentures. Du coup.
Alors il y a plein de choses à voir. Il y a aussi des sanctuaires bouddhistes très importants, là encore. Et puis, j'ai appris que Sakurai était le berceau du sumo.
Eh oui, de sumo. Contrairement à ce qu'on peut penser, le sumo ne se passe pas que dans les grands tournois entre Tokyo, les tournois de l'Est et de l'Ouest et du Japon, avec des lutteurs qui aujourd'hui sont autant hawaïens que mongols, etc., et de moins en moins japonais. Mais en fait, c'est quand même la restitution sur Terre d'une lutte très âpre entre les tenants de la déesse du soleil et ceux de son frère, le dieu des tempêtes et des océans. Et donc ça s'est traduit dans le passé mythologique par deux grandes luttes, deux grands combats, un par les dieux eux-mêmes et un autre, un petit peu plus tard, par les humains qui représentaient exactement les mêmes provinces. Et comme c'est la province du Yamato qui a gagné, c'est pour ça que toute la plaine de Nara et de Sakurai est le lieu de naissance du premier royaume japonais.
Donc on voit encore des beaux combats de sumo. Est-ce qu'on en verra, tiens, en fait, des combats de sumo? Est-ce que c'est possible, ça?
On peut toujours essayer.
À Chartres.
Après, on risque d'avoir un problème si on trouve des mécènes, je pense, parce que ça doit...
Ah oui, ça brasse beaucoup d'argent, vous le disiez, oui. Ouais. On va écouter un peu de musique japonaise, bien évidemment, et on parlera de cette année de Sakurai à Chartres.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel Nouvelle d'ici d'ailleurs, qui nous introduit dans la civilisation japonaise en compagnie de Dominique Buisson et de Claire Crézé. Nous parlons de l'association des amis des jumelages de Chartres, évidemment du jumelage Chartres-Sakurai, 27 ans cette année, avec de nombreuses manifestations tout au long de l'année. Ce qu'on vient d'écouter, qui était tellement beau, eh bien, vous en avez dit des choses très intelligentes, Dominique Buisson. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter du Shakuhachi,
le terme lui-même, c'est la dimension de la flûte. C'est une flûte de bambou, une grosse flûte de bambou, et qui permet donc de traduire, on va dire, l'intimité de la discussion des bambous entre eux dans les forêts de bambou. Voilà.
Et vous avez dit quelque chose de très beau, c'est une traduction du non-dit du bambou. C'est fabuleux, voilà. Ça.
C'est en fait une traduction sonore du silence. Oui. Qui a dans cette conversation, on peut dire comme ça, très très intime, des bambous entre eux.
Ouais, ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, dans les arts japonais, le silence est plus important que la musique. C'est fabuleux, ça.
Oui, de toute façon. Ouais. De toute façon. Donc, ça nécessite évidemment un décodage quand on est occidental, qu'on débarque au Japon. Il y a beaucoup de choses qui nous surprennent. Mais je crois que la première des qualités, mais où que l'on soit d'ailleurs quand on voyage, c'est d'écouter les autres.
Oui. Alors le festival, 2016 année Japon Chartres Sakurai, c'est un projet ambitieux, je le disais, qui couvre toute l'année 2016, ciné, expo, conférences. Le festival cinéma a déjà commencé avec la projection le 31 mars dernier des Délices de Tokyo. Il va se poursuivre le 13 avril à l'occasion de la sortie nationale d'un film qui n'est pas un film japonais, c'est un film de Vanja Alcantara, Le cœur régulier, d'après le roman d'Olivier Adam, mais c'est un film qui se passe au Japon.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et il y a donc tout un choix de films qui a été fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de ces films? Il y a des grands classiques, hein, vraiment.
Alors, il y a des grands classiques. Alors, un destination de tout public, puisque juste le lendemain de la sortie du cœur régulier, on aura une projection de Mon voisin Totoro. Donc ça, c'est plutôt pour les petits. C'est un film d'animation pour les petits, mais les grands qui sont restés encore enfants. Vraiment tout public pour le coup, qui sera d'ailleurs suivi d'une démonstration et d'un atelier d'origami pour les enfants qui y souhaiteront. Ensuite, donc, nous avons deux films qui sont plus contemporains. Oui. Nous avons donc ensuite...
Alors, je crois qu'il y a notamment un film qu'il faut absolument aller voir, c'est Kagemusha de Kurosawa, le grand.
Alors voilà, il y a Kagemusha, donc ça c'est le film de patrimoine qu'on a proposé à la diffusion, parce que ça c'est un grand film, moi j'en ai souvenir, je crois que c'était ma première rencontre avec le cinéma japonais, et je suis restée scotchée à mon siège, parce que c'était vraiment quelque chose de complètement différent du cinéma occidental, du cinéma...
C'est un film qui est fidèle, Dominique Buisson, à l'art chevaleresque de japonais, réellement.
Oui. Complètement. Si on peut avancer l'idée, parce que Kurosawa lui-même en parlait comme ça, c'est que ce sera un mélange entre les grandes traditions guerrières du Japon et Shakespeare. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de batailles. Il y a des effets plastiques absolument somptueux. Donc, d'ailleurs, il a mis 10 ans à faire le storyboard en peinture avant de tourner le film. Mais pour Han, par exemple... Hein. Mais c'était sa méthode de travail. Mais aussi, il y a un travail sur la psychologie des personnages qui est plutôt de type shakespearien, là, pour le coup.
Et donc, il y a d'autres films.
Alors, il y a d'autres films. Donc, au mois de mai, nous aurons Still Walking de Hirokazu Koreeda. Donc, c'est un film de 2008. Nous aurons également donc au mois de juin la projection de Miss Okuzai qui n'a jamais été projetée à Chartres, donc ça sera bien. Il y aura deux séances et notamment une où Dominique présentera les pionniers du manga. Et donc pour aller un petit peu plus loin après la projection de ce film, donc le 1er octobre, nous devrions avoir à la médiathèque de Chartres une rencontre avec des auteurs de manga français pour le coup, mais voilà, qui nous expliqueront un petit peu comment ils travaillent, Donc ensuite il y aura Kagemusha et donc nous terminerons l'année avec L'autre rive donc de Kurosawa et puis au mois de décembre Le garçon et la bête qui a déjà été projeté en fin d'année dernière, début de cette année, mais qui est, voilà, qui sera pour nous, donc c'est un film d'animation à nouveau, oui. qui sera pour nous une occasion de terminer l'année en beauté. Voilà.
Alors, à chaque projection au cinéma Les Enfants du Paradis, les festivaliers pourront découvrir des vues de Sakurai qui ont été immortalisées par vous, Dominique Buisson. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer?
Bon, ben, j'ai choisi de montrer ce pourquoi on va à Sakurai d'un point de vue touristique, c'est-à-dire les temples incontournables, quelques petits coins sympathiques. C'est très japonisant, c'est très traditionnel. D'ailleurs, c'est ce que le public a apprécié en voyant les photos. C'est ce côté Japon tranquille, un peu touristique. Et c'est vrai que la région s'y prête et qu'il y a des temples absolument magnifiques.
Mais c'est votre Japon aussi quand même? C'est une ville qui est chère à votre cœur? Vous préférez des choses moins touristiques peut-être?
Là, à Sakurai, il y a une dimension, une sorte d'intimité de la ville qui fait qu'on s'y sent bien. Donc moi, je m'y sens parfaitement bien, même si c'est le cas lors de la visite du Hasedera, qui est un des temples très très connus de la région. Au printemps, il y a 7000 pivoines, donc c'est magnifique. Il y a des centaines de milliers de Japonais qui défilent. Mais même là, dans ce cadre-là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, de la familiarité.
Oui.
Et ça, c'est caractéristique de Sakurai.
Oui. Peut-être le respect des gens vis-à-vis de chacun, finalement, c'est ça?
Il y a l'idée que c'est déjà une ville de province.
Oui.
Et qu'elle est totalement intégrée dans la nature et dans ses dieux.
Oh,
et le film
rêver,
Les délices de Tokyo de Naomi Kawase... Kawase est né là. Ouais. Et c'est dans tous ses films, on voit des vues, même dans Les délices de Tokyo, qui se passent directement à Tokyo, il y a un moment où on voit une vue de Sakurai. Ouais. Parce que c'est intime.
Ouais. Je crois que c'est aussi la ville des fleurs de cerisier. Ou la ville des fleurs, en tout cas, Sakurai. Oui.
À Sakurai, c'est la ville du puits du cerisier.
Du puits du cerisier.
Oui, parce qu'il y a une histoire de pétales qui serait tombée dans le saké d'un empereur... naviguant sur un petit étang, il a trouvé ça merveilleux et il a fait déplacer le cerisier d'où venaient potentiellement ses pétales et il l'a fait replanter près d'une source d'eau pure où il y avait un puits donc, qui jaillissait et d'une eau qui était censée apporter la jeunesse, qui était sacrée. Donc voilà le nom de la ville, c'est le puits du cerisier.
Et d'ailleurs, elle fait un clin d'œil aussi un peu à ça, puisque hier, les jeunes filles se plaignent à un moment que dans les dorayaki, il y a des pétales de cerisier qui sont
oui, oui, c'est un,
là.
C'est
oui, c'est un clin d'œil.
Récoutons un peu le bruit du vent dans les bambous, si vous le voulez bien.
Oh,
qu'ajouter après cette musique qui nous plonge en état méditatif extraordinaire.
Oui, on est dans une autre réalité du monde là. On n'est plus dans la mélodie qu'on peut apprécier pour sa beauté formelle. On est dans la vibration, on est dans le vibratoire, quelque chose qui est déjà beaucoup plus large. C'est pour ça que même si on peut être rebuté par ce genre de sonorité, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on participe à quelque chose quand on écoute ça.
Et on a le sentiment de la beauté là, mais c'est vrai que c'est pas une beauté comme celle que nous aimons d'ordinaire en Occident, quoi.
C'est pas une beauté qui a une forme.
Oui.
On va dire c'est une beauté, c'est la trace d'une beauté. Oui. Si on veut comparer à nous, hein, une jeune femme qui passe, c'est pas la jeune femme la beauté, c'est le souvenir qu'elle a laissé en passant.
Dominique Buisson, vous êtes passionnant. Je n'hésite pas à le dire. Alors d'autres expositions attendent les amoureux du Japon au cours de cette année. Une qui sera consacrée au thé et aux objets du quotidien, car au Japon, les objets de la vie quotidienne, bien souvent les objets les plus humbles, d'ailleurs, font l'objet d'un respect qui confine parfois à la vénération. Ça, c'est à l'office de tourisme, c'est ça?
Ça sera à l'office de tourisme, oui, du 10 au 20 juin.
Qu'est-ce qu'on pourra voir là exactement?
Alors, on pourra voir des théières, différentes sortes, parce que, voilà, il y a...
Très belle collection.
Une belle collection, voilà, une chartraine qui est une très très belle collection de théières qui racontent aussi des tas de choses, des tas
d'histoires. Que nous la connaissons, cette chartraine, non?
Oui,
oui, hein, très
c'est,
bien.
C'est même. Bernadette Poison, voilà. On va dévoiler le secret qui officie dans ses studios très régulièrement. C'est important, les objets du thé, hein, pour la cérémonie du thé.
Oui, voilà. Alors, on espère pouvoir organiser une cérémonie du thé, mais c'est un petit peu... compliqué de trouver la personne qui puisse être en plus disponible au bon moment. Mais bon, si ça ne peut pas se faire à Chartres, on essaiera peut-être de faire un déplacement ailleurs pour voir. Parce que c'est quelque chose dont les gens sont assez curieux, disons, parmi les... Disons que c'est quelque chose qui est, pour les gens, quand on parle du Japon, c'est un peu la cérémonie du thé. Et je pense que ce n'est pas... Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir. Je pense que ce n'est pas du tout... ce à quoi nous attendons. Parce que nous, on a plutôt une vision anglo-saxonne, je dirais, de la cérémonie du thé. Je pense que c'est complètement différent.
Ouais, c'est très différent.
Très différent.
D'autant que là, les théières qui seront exposées, ce ne sont pas des théières de cérémonie du thé.
Hein,
ce sont des théières comme celles qu'on utilise, nous, hein, pour verser donc de l'eau chaude sur des feuilles de thé. La cérémonie du thé, elle, c'est du thé qui est en poudre, qui doit être fouetté, c'est un thé très particulier, et donc on puise directement dans une bouilloire, avec une louche, on met dans le bol de thé, on fouette et on fait déguster le thé.
Oui.
Donc c'est un rituel très différent.
C'est un rituel qui commence d'ailleurs en dehors de la salle de thé, hein, le chemin pour aller au petit pavillon
thé. Le chemin humide de rosée, qui est le jardin qu'il faut emprunter, d'ailleurs c'est pas un jardin, d'ailleurs il y en a deux, successivement, qui permettent d'abandonner son moi pour entrer dans l'esprit du thé. Et enfin, on pénètre dans le pavillon par une porte très basse qui nous oblige à l'humilité. Et ensuite, va se dérouler avec un maître de thé une cérémonie, entre guillemets, d'une extrême simplicité, mais qui est un moment unique qui jamais ne se reproduira à l'identique. Et c'est ça qu'on recherche.
Quelle civilisation, tout de même.
Oui, mais enfin, n'exagérons pas, il y a des choses absolument magnifiques, hyper raffinées, etc. Mais il ne faut pas oublier que le Japon, il y a l'exact contraire qui existe aussi. La truculence, la déraison, des trucs de fou complets.
Hein. D'accord, sinon on ne les voit pas.
Ça, on l'oublie trop souvent. Et c'est peut-être cet équilibre justement entre les deux qui fait que c'est une civilisation qui est extrêmement riche de ce point de vue-là.
Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais parler quand même de septembre à novembre. Il y a le boulevard Charles qui est devenu un lieu d'expo à part entière. Il y aura une exposition.
Alors, il y aura une exposition, donc le Japon insolite, des photos de Dominique Buisson présentant là, l'ensemble du Japon. Et donc, ça commencera début septembre. Ça sera mis en place pour le Forum des associations, donc qui est le premier week-end de septembre. Et ça durera jusqu'à la mi-novembre.
Jusqu'à la mi-novembre. Voilà. Le Japon insolite, c'est quoi alors?
Le Japon insolite, c'est un titre qui permet de mettre des photos un peu diverses et variées, remettre quelques photos de sakurai parce que c'est quand même la thématique de base, faire des portraits aussi bien de poupées, de personnes que de statues, c'est de mettre quelques petites photos un peu amusantes ou étonnantes. Voilà, c'est d'essayer de créer un petit climat sympathique autour du Japon. Il y a une autre manifestation qui est importante, oui, voilà. C'est autour du kimono.
Voilà.
Autour du kimono.
Autour du kimono, voilà, ça sera un moment important aussi parce que c'est donc à la collégiale Saint-André du 7 au 12 octobre, autour du kimono, donc avec un certain nombre des expositions de peinture, de sculpture, de défilés. Ça va être aussi assez riche. Sur 4 jours, malheureusement, mais voilà. Et en plus, un événement important, c'est que le maire de Sakurai devrait être présent le 8 octobre à Chartres. Donc,
on en reparlera. De toute façon, c'est sûr au cours des mois à venir.
Ça sera.
Alors, ces objets, ils viennent d'où, les objets, les petits tableaux, les kimonos?
Les tableaux, c'est des artistes chartrennes, pour la plupart. Et une jeune
artiste qui, elle, est parisienne, mais qui a été en résidence au Japon pendant 3 mois pour faire un travail très sympathique, d'ailleurs, pas seulement autour du kimono, mais sur d'autres choses. C'est des installations d'animaux qu'elle sculpte en bois dans les rues avec réaction des passants, donc des postures très contemporaines. Donc, un joli travail là-dessus. Il y a une artiste... qui fait un travail sur le kimono en relation avec le vitrail. Donc là, on est dans une typologie culturelle vraiment chartraine. Et une nouvelle chartraine qui fait, puisqu'elle est là depuis très peu de temps, et qui va nous présenter des peintures de kimono traditionnels anciens qu'elle réinterprète, elle, en peinture.
C'est donc du 7 au 12 octobre à la Collégiale Saint-André. Merci beaucoup, on arrive au terme de cette émission. Merci Dominique, merci Claire. Pour tout renseignement sur ce grand moment culturel chartrain consacré à Sakurai, notre ville jumelle, et peut-être plus largement aux différents aspects de la civilisation japonaise, vous pouvez appeler au 02 37 21 76 77, c'est le numéro des amis des jumelages, ou écrire à jumelage au pluriel -chartres@wanadoo.fr, jumelage au pluriel -chartres@wanadoo.fr. Grand merci à vous.
Merci aussi.